Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait. Ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la dixième heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu.
Quel jour mémorable que cette première rencontre. André et son frère, qui ne se nomme pas lui-même, mais qui... Jean, qui ne se nomme pas lui-même, mais qui est bien l'évangéliste, sont disciples de Jean le Baptiste. Ils étaient avec lui au moment où il baptisait, dans le Jourdain, et il recevait l'instruction de Jean. Et puis, il y a eu le baptême de Jésus, un moment solennel, un moment très étonnant, parce qu'on a vu l'Esprit-Saint sous la forme d'une colombe qui était descendue sur lui, avec les paroles de Jean, et surtout la parole de Dieu qui venait du ciel, qu'on a entendu. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Et Jean désigne celui qui se promène, qui allait et venait. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est une expression qu'on connaissait bien dans l'Ancien Testament, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'était l'agneau du sacrifice d'abord, l'agneau pascal. Et l'agneau de Dieu, on avait déjà entendu que ce serait le Christ, celui qui viendrait comme l'agneau. On ne savait pas, on ne pouvait pas imaginer tout ce qui se déroulerait après. Mais on avait déjà ce sentiment que l'agneau porterait quelque chose de particulier. Et voilà que Jean, effectivement, le Baptiste, désigne l'agneau de Dieu. Il sortait de cette personne de Jésus quelque chose de tout à fait neuf. On était frappé, dit l'évangile de saint Marc, par son enseignement, parce qu'il parlait, lui, avec autorité, non pas comme les scribes. Il y a une majesté chez Jésus, il y a une gravité, une profondeur, une vérité étonnante. Surtout se dégage de Jésus un amour incroyable. Il a une aura, qui est quelque chose qui crée un climat autour de lui. Personne ne peut rester indifférent près de lui. Voici l'agneau de Dieu. Cette parole est si forte que André et donc ce disciple, qui sera Jean, suivent Jésus. Et Jésus se retourne. Que cherchez-vous ? Non pas qui cherchez-vous, que cherchez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Maître, où demeures-tu ? Où demeures-tu ? Cette question est forte, cette question est très, très grave. Où demeures-tu ? Évidemment, André et Jean ne posent pas la question « Où est-ce que tu habites ?» Quel est le mystère de ta personne ? Où sont tes racines ? Où est l'origine de ce que tu es ? Au commencement était le Verbe, on a entendu ça il y a 15 jours à Noël. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, tout ce qui a été fait par lui. Où demeures-tu ? Mais Jésus demeure dans le sein de son Père. Il est venu du sein du Père pour vivre dans le monde au milieu de nous. Et il le dira à ses disciples vers la fin, avant la Passion, « Celui qui garde mes commandements demeure en moi, comme moi je demeure dans le Père. Comme je demeure dans le Père et le Père en moi, de même que moi je garde ses commandements et que je demeure en lui, celui qui garde mes commandements, ceux-là demeureront en moi. » Son commandement c'est l'amour, c'est la charité. Son commandement unique c'est « Aimez-vous ». Vous voulez savoir où le Christ demeure ? Alors vivons l'amour, vivons la charité et nous découvrirons où il demeure. Et même plus encore, nous demeurerons en lui. Venez, vous verrez, dit Jésus. C'est une expérience qu'il faut faire soi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, ce n'est pas une formule toute faite. Ce n'est pas une théorie, c'est une rencontre, c'est une expérience. Cette expérience les a tellement marqués que Jean le note, il était à peu près 4 heures de l'après-midi, ça l'a marqué à tout jamais. 60 ans plus tard, il en a tous les détails en tête. Il se rappelle de cette rencontre qui a bouleversé sa vie. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là et ils virent où il demeurait. Ils ont constaté, ils ont fait l'expérience, ils ont rencontré le Christ. Combien de fois, on l'a dit ici. Ma religion n'est pas une théorie, n'est pas une manière de regarder le monde. L'Évangile n'est pas un manuel du parfait petit chrétien. Ce n'est pas une recette à suivre. C'est une expérience à faire, une expérience personnelle. Ma religion, c'est quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus. André et Jean ont fait cette expérience et ils en sont tellement bouleversés qu'ils vont répandre cette nouvelle, à commencer par Pierre, le frère d'André. Nous avons trouvé le Christ, mais le Christ, on l'attend depuis des siècles. Le Christ, il y a une attente, ce qu'on appelle l'attente messianique. Le Christ et le Messie, c'est le même mot. Christ en grec ou Messie en hébreu. Le Christ qu'on attendait, le Messie qu'on attendait, le Messie qui était celui qui enfin délivrerait son peuple. On n'a pas encore compris qui serait le Messie, on n'a pas encore compris le mystère du Christ, évidemment. Et tout l'Évangile sera une découverte du Christ. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Est-ce que tu es bien le Christ ? On l'attendait tellement différent de ce qu'il est en réalité. On attendait un homme extraordinaire, mais on ne pouvait pas imaginer que cet homme serait en même temps Dieu. On ne pouvait pas imaginer que cet homme ferait des miracles au nom du Seigneur, de sa propre autorité, qu'il chasserait les démons et surtout qu'il pardonnerait les péchés. Oui, il est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Il porte les péchés, tous les péchés de tous les hommes, dans tous les temps. C'est sa mission. Sa mission, c'est de révéler, de manifester l'amour de son Père. Et l'amour de son Père est manifesté quand les péchés sont effacés, quand les péchés sont ôtés, dissous dans son amour, dans sa miséricorde. Nous avons trouvé le Messie. Est-ce que c'est une expérience qui nous brûle intérieurement ? Est-ce que nous serions prêts à sortir de l'Église en disant aux gens que nous rencontrons « Nous avons trouvé le Messie ». « Oui, ce matin, je suis allé à la messe, on a eu un truc sympa, c'était pas mal. Oui. » Mais est-ce que vous êtes brûlés de cette rencontre ? Si nous ne sommes pas brûlés, c'est que nous n'avons pas fait cette rencontre. J'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Christ, il a changé ma vie. C'est ça le témoignage, c'est notre mission. Notre mission, c'est celle du Christ. Notre mission, c'est de manifester à tous les hommes, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et nous manifesterons cet amour en révélant que les péchés, même les plus graves, ne sont rien pour Dieu. Une goutte dans un océan d'amour. Tout est brûlé dans sa miséricorde. Jésus posa son regard sur lui en parlant de Pierre. Tu es Simon, tu t'appelleras Képhas, tu t'appelleras Rocher, tu t'appelleras Caillou, comme disait le cardinal Lustiger. Tu t'appelleras Caillou, sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus posa son regard sur lui. Jésus pose son regard sur nous aujourd'hui, ce matin, sur chacun d'entre nous. Il pose son regard, comme il a posé le regard autrefois sur Samuel. C'était Dieu, on ne savait pas qui était Jésus encore à l'époque, bien sûr. Dieu a appelé Samuel, Samuel. Il a fallu du temps pour que Samuel comprenne à l'école du vieux prêtre Élie que c'est Dieu qui l'appelait, non pas un homme. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Parle, ton serviteur écoute. Au fond, c'est la seule chose que le Seigneur attend de nous, que nous soyons disponibles pour sa volonté, que nous soyons disponibles pour sa parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Écouter, c'est pas rien. Écouter, c'est être prêt à accueillir, à être prêt à faire que la parole fructifie en nous, que la parole porte son fruit à travers notre écoute, comme elle a porté son fruit dans la Vierge Marie. La Vierge Marie a enfanté, elle a conçu parce qu'elle écoutait la parole. Elle ne l'entendait pas seulement, elle l'écoutait. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Au fond, tout a commencé avec une désobéissance. Le péché, c'est une désobéissance fondamentale. Tout reprendra par une obéissance. Et je suis frappé ce matin, cette disponibilité radicale que Dieu attend de nous, elle n'est pas seulement pour les prêtres, elle n'est pas seulement pour les religieux ou les consacrés, elle est pour tous les chrétiens. Tu as été plongé dans les eaux du baptême, tu as été plongé dans la mort avec le Christ. Tu es rené avec le Christ, tu es rené à une vie nouvelle. Désormais, j'attends de toi une disponibilité totale. Mais Seigneur, je suis marié, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? J'attends de toi une disponibilité dans ta vie concrète. Tu n'es pas chrétien si tu n'es pas disponible à sa volonté. Être chrétien, c'est accomplir sa volonté. Sa volonté, elle est simple. Aimez-vous. Aimez-vous. Quand on voit l'état du monde, mais je ne peux rien contre ce qui se passe à l'autre bout de la terre, mais je peux quelque chose ici. Je peux quelque chose chez nous. Je peux quelque chose dans ma paroisse. Je peux quelque chose dans ma famille. Je peux répandre l'amour autour de moi. Par cette gravité, j'ai rencontré le Christ, j'ai trouvé le Messie et je me suis mis à sa disposition. Tous, nous devrions être à la disposition du Seigneur. N'ayons pas peur, les papes, depuis Jean-Paul II, mais depuis bien avant, tous les saints nous l'affirment, nous ne perdons rien à suivre le Christ. Nous ne risquons rien à suivre cette voie. Ça n'est pas dangereux pour nous, il ne peut nous arriver que du bien. Il ne veut nous arriver qu'un accomplissement de tout le bonheur que Dieu veut pour nous. Le Christ ne va pas enlever quelque chose de notre vie. Il ne va pas nous demander des choses impossibles. Il ne va pas nous faire vivre une vie qui sera une vie de sacrifice, de martyr. Il veut pour nous une vie sainte. Il veut pour nous une vie d'amour. Il veut pour nous une vie qui ne sera pas facile, mais la vie n'est jamais facile à cause du péché. La vie n'est jamais facile. Il veut pour nous un épanouissement complet, la réalisation de notre bonheur. Regardons comment la Vierge Marie est à la disposition de Jésus, de Dieu, et imitons la Vierge Marie. Elle est notre mère, elle est notre école, elle nous prend par la main, c'est elle qui nous apprend. Demandons-le-lui avec foi, avec confiance, comme des enfants, comme Samuel. Amen.